RMC, entre les poteaux,
Winnie Claret.
Salut tout le monde, on repasse au rugby à 7 pour faire le bilan du tournoi de Singapour. Ce week-end, les Françaises ont retrouvé le podium. Elles repartent d'Asie du Sud-Est avec la médaille de bronze. À moins de 3 mois des Jeux de Paris, c'est bon de regoûter au métal. Mais il va falloir trouver les clés pour regarder les leaders néo-zélandaises et leurs dauphines australiennes en face. Pourquoi tombe-t-on encore face à ces nations? Quelle est la suite pour les Bleus d'ici à Paris? Quel groupe emmené au JO? Le rugby à 7 entre dans le Money Time. On entendra le sélectionneur David Courtex. Et pour cet épisode, le porteur d'eau des poteaux, c'est Arthur Jean. Salut Arthur. Merci, tu nous apporteras surtout ton analyse de ce tournoi de Singapour. Et on n'oublie pas les hommes, évidemment, qui sont passés à côté ce week-end avec une 8e place frustrante, même s'il y a des raisons de croire en leur montée en puissance. Entre les poteaux, Special 7, c'est parti.
France looking to go back to back on their opening day in Singapore. Spain looking to get their first victory on the board, but how about the territorial gain made there by France as Lojal takes it quickly, feeds himself, carries hard through a pair of Spaniards. Now the show and go from the skipper Rabadj. The captain is over. France at last hit the front.
It's hard work early for the French. Japan not missing. Now it opens up. The patience there, and it's Morsela Amedi who opens it up for the French. Putting these restarts on a diamond. Here's Okemba scooping up the loose ball, powering through the defence, and Seraphine Okemba, France's new captain this weekend, on the board.
Tore it up for the Chiefs in the Premier 15s. It's now back to the French women, who have just had the ball on a string over the course of this one, and Lou Noël Rivière.
Arthur Jean, on commence tout de suite par ce bilan du tournoi féminin. On va commencer par les filles, puisque ce sont elles qui ont une médaille autour du cou, de retour de Singapour. On a eu un début de tournoi canon, et puis encore et toujours buté contre ces fameuses Australiennes, quand ce ne sont pas les Black Ferns. Raconte-nous un petit peu rapidement ce tournoi.
Eh bien, ce tournoi, il a très très bien commencé hein, pour les Françaises. Deux grosses victoires, c'était contre le Japon et l'Afrique du Sud. 41-7 contre les Japonaises et 49-0 contre l'Afrique du Sud. Le premier match un petit peu plus compliqué, un petit peu plus intéressant. On a pu voir plus de choses. Le plus gros défi de ces phases de poule, c'était contre les États-Unis. Encore une victoire pour les Bleus.
Plus accroché.
Plus accroché, évidemment. Mais en défense, on a vu beaucoup de choses très intéressantes. Bon, on en reparlera après. Encore une belle victoire contre le Canada en quart de finale. Et c'est là où le bât blesse, évidemment. Toujours une défaite contre l'Australie, 19-12. On a l'impression de revoir ça un petit peu à tous les tournois, malheureusement. Ouais. Et voilà, une défaite 19-12. Et pour finir, un match un petit peu moins intéressant, malheureusement, mais c'était contre les Fidji, victoire 29-7. Mm. Une troisième place, le bronze, avant de passer au tournoi de Madrid. Ouais. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir quand même sur ce tournoi,
oui. Et bah justement, alors quatrième médaille de la saison, elles étaient restées sur deux contre-performances à Los Angeles et à Hong Kong en mars et en avril dernier, une cinquième et une quatrième place. Donc déjà la satisfaction pour David Courtex, le sélectionneur, de repartir avec une médaille, de retrouver le podium à moins de 3 mois des Jeux Olympiques, évidemment que ça compte. Tu le disais, hein, il y a plusieurs circonstances, d'abord atténuantes, mais aussi des motifs de satisfaction. Du côté des circonstances atténuantes, y a plusieurs cadres qui n'étaient pas là. On pense évidemment à Anne-Cécile Siofani, Johanna Griset et Chloé Jacquet qui ont prêté main forte au 15 de France féminin pour le tournoi Destination qui était logiquement ménagé. D'ailleurs, même Johanna Griset, elle a une lésion musculaire au mollet, donc plus que d'être ménagée, elle pouvait de toute façon pas jouer. Caroline Drouin, elle, est touchée au genou. Chloé Pell et Jade Dulutulé étaient aussi absentes pour Singapour. Voilà, ça fait partie quand même des cadres de cette équipe cette saison qui n'étaient pas là. Le groupe de Singapour qui a quand même répondu présent. Et ça, c'est un des motifs de satisfaction pour David Courtex. C'est que ce soit les jeunes, celles qui ont un peu moins joué cette saison, elles ont répondu présentes. Mais il a aussi listé tout un tas de points positifs à retenir. Écoutez.
Les attitudes, l'engagement, le culot. Pour moi, on a répondu sur ce qu'étaient les qualités de l'équipe du week-end. On prend 8 essais dans le tournoi. Il y en a, pour moi, 3 ou 4 d'évitables. Je crois que se donner les moyens de prendre aussi peu d'essais dans un tournoi aussi relevé, c'est quand même un signe de force. On a été bon dans les contacts, bon dans les contre-rucks. On a été bon dans la couverture du pied. On a été bon sur les renvois. On a été aussi pertinent sur les lancements de jeu, même si de temps en temps, on a manqué un petit peu de jambes pour finir de faire la différence. Il y a le match de l'Australie qui restera frustrant. Pour faire un petit clin d'œil, mais plein d'humour, je jure, je ne me moque de personne. Je pense qu'à l'expecting goal, nous pouvions même revendiquer le fait d'avoir gagné.
Voilà, le petit clin d'œil qui fait toujours plaisir de la part du coach Auvergnat. On se souvient évidemment de Fabien Galthié qui était revenu devant la presse après l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde des Bleus face à l'Afrique du Sud et qui avait dit que les Bleus s'étaient créés tellement d'occasions qu'on aurait dû gagner en fait.
C'est dur hein, de remuer le couteau dans la plaie comme ça fait mal.
Ouais, je sais pas si c'est vraiment de bon augure de se comparer à ça en fait.
C'est vraiment pas, je pense pas non plus.
Bon, tu l'évoquais Arthur, la question aussi qui se pose évidemment au-delà du bronze, c'est pourquoi on bute toujours sur les australiennes, sur les néo-zélandaises. Petit chiffre avant de te donner la parole. En 6 confrontations, les Bleus n'ont battu l'Australie qu'une seule fois cette saison. C'était un demi-finale du tournoi de Vancouver. Et puis depuis, plus rien. Encore une fois, on se fait sortir par l'Australie à Singapour. Comment toi, tu envisages ça? Qu'est-ce qui peut expliquer une telle domination sans partage de deux nations? Nous, on est juste derrière et en fait, on n'arrive pas à les regarder en face.
Ce qui est fou, c'est qu'en fait, on est juste derrière. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Quand tu regardes au niveau des points déjà sur le classement général, on est à peine 20 points de l'Australie. Je crois que ça ne se joue vraiment pas à grand-chose. On avait parlé de l'aspect mental sur des précédents podcasts. Pour aller un petit peu plus loin là-dedans, je pense que dans cet aspect mental-là, donc il y a l'aspect de la concentration.
Ouais.
En fait, au rugby à 7, un plaquage manqué, un essai, un renvoi perdu, c'est une possession pour l'adversaire.
Voilà.
Et ça, c'est des choses où en fait, on doit remporter tous ces 1 contre 1. Et dans ces cas-là, pour réussir à remporter ces 1 contre 1 offensif et défensif, tu dois rentrer dans la tête de ton adversaire. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu dois lui montrer que toi, tu es dominant dans les duels. Je sais pas, ça fait partie de ça, le chambrage aussi, lui montrer que tu as confiance en toi en réussissant les gestes que tu tentes. Et en fait, à ce niveau-là, on sent que les Australiennes et les Néo-Zélandaises, de par toute leur victoire, de par tout ce qu'elles réussissent dans le jeu,
et de par quelques joueuses incroyables aussi,
et de par quelques joueuses qui sont aussi quand même formidables, elles réussissent à passer ce cap-là, et c'est ce truc-là, ce cap mental qu'on n'arrive pas à passer, j'ai l'impression.
Justement, le sélectionneur David Courtex, lui aussi, hein, il est de cet avis, il nous dit « Ce n'est pas une question de jeu, de technique, de physique, non, la différence entre les Australiennes et les Bleus, c'est la confiance, selon lui, écoutez. »
Il y a une équipe qui dégage une espèce de constance, une espèce d'assurance un petit peu presque hautaine, et une équipe qui est une équipe enthousiaste, qui est une équipe qui a des qualités, qui se crée les occasions, mais qui quelque part manque de confiance en nous, d'affirmation de nous-mêmes en tant que groupe, etc. Moi je le ressens beaucoup.
Alors justement, cette décomplexion dont il parle et qu'il admire quelque part chez ces Australiennes, qu'on voit beaucoup d'ailleurs, hein, parce que ça se joue partout, dans les couloirs, dans les stades, dans les vestiaires. On voit les Australiennes, elles sont tout le temps à la fête, elles se marrent. Presque, elles ont mauvaise presse auprès de certaines nations du rugby à 7, parce que ce sont les déconneuses du circuit. Et on le voit même à chaque fois, pendant les tournois à 7, les équipes, quand elles marquent un essai, on a enregistré une petite vidéo où on voit les joueuses... danser ou faire
célébrer,
un signe,
ouais,
pour célébrer. Et ben, les meilleures vidéos, ce sont celles des Australiennes, parce qu'elles, elles arrivent complètement décomplexées, elles nous font des chorés, voilà. Donc, c'est un tout mental. Il me semble qu'on peut tirer quand même un parallèle avec le rugby à 15, parce que chez les femmes, on a aussi buté récemment face aux Anglaises. Et je pense que mentalement, les Anglaises, elles ont aussi une marge d'avance sur nous. Tu partages un peu ma vision?
Ouais, carrément. Et en fait, le fait de savoir qu'on va toujours buter ou qu'on va toujours avoir des difficultés, ça fait que tu te mets dans un espèce de couloir mental où tu te dis, il faut qu'on gagne ce match-là parce qu'on va finir par les affronter de toute façon. Et finalement, bah, tu n'arrives pas à les battre parce que tu es peut-être pas assez concentré, pas assez décomplexé en fait, face à ces nations-là, alors qu'elles... en fait, elles sont complètement, on va dire, tranquilles par rapport à toutes les oppositions qu'elles peuvent avoir. Et aussi, peut-être, pour aller un peu plus loin là-dessus, c'est qu'en fait, il parlait, David Courtex, de cette concentration qui est trop importante. Les Françaises pourraient être plus tueuses, plus de vis aussi. On parlait de chambrage tout à l'heure, étant donné qu'elles transpirent moins la confiance. Il faudrait aussi qu'elles tentent peut-être de surjouer, de tenter beaucoup plus de choses. Et ça, c'est se mettre aussi dans un mood qui font qu'en fait, elles vont se dire on peut tout réussir,
ouais,
même face à ces grosses nations-là sur lesquelles on bute à chaque fois.
Un mot aussi des Néo-Zélandaises, les leaders de la saison régulière. Elles ont battu les Australiennes, justement, en finale, 31-20, avec les inévitables Michaela Blyde, auteur d'un triplé quand même en finale, et de Portia Woodman-Wycliffe, pour ne citer qu'elle. Côté australien, à Paris, il faudra faire très attention à une certaine Madison Levi, qui est la star de cette équipe et qui est inarrêtable, ballon en main. Alors d'ailleurs, Arthur, avant de se projeter sur Paris, c'est quoi la suite? D'abord, des pistes de travail. On en a discuté avec David Courtex assez longuement après la petite finale face aux Fidjiens remportée hier à Singapour. Il nous a dit, il faut d'abord s'appuyer sur nos points forts, il faut affiner certains écueils en défense, être notamment meilleur sur la défense à la poursuite. C'est un peu ce que tu nous disais, c'est que si une fois que tu rates un plaquage ou que tu te fais franchir, il faut être capable de mettre les cannes et aller rattraper une joueuse, ouais, et aller la chercher très bas pour la faire tomber. Ça, c'est peut-être un des écueils de la défense française. Aller chercher ses filles plus bas, aller les chercher très loin. Travailler l'attaque aussi, mieux trier les ballons. Gros travail aussi sur les ballons aériens qui est en train d'être mené en vue des jeux et aussi sur les lancements de jeu après les mêlées ou les touches. Voilà les secteurs qui ont été ciblés. Et je pense que tu partages avec moi ce côté... Il y a un côté un peu hourra rugby parfois du rugby français qui est plus... Les Australiennes, les Néo-Zélandaises, c'est huilé. Elles font des passes canons, elles ont des lancements de jeu travaillés, elles se connaissent par cœur. Nous, on est plus dans les off-loads, ça passe pas, on tente, on verra.
Un peu le French flair, tu sais, dont on parle aussi même avec le rugby à 15, au final, c'est un peu pareil. Moi, ce que je trouve qui manque dans cet effectif français, c'est dans les courses surtout. Les courses doivent être plus tranchantes. On a été très très bonnes du coup sur les ballons de récupération. Défensivement, c'était le gros point positif de ce tournoi, j'ai trouvé. Je crois que c'est Séraphine Okemba qui termine deuxième meilleure plaqueuse au final des phases de poule. Après, pour la fin du tournoi, j'ai pas cette stat. Mais défensivement, c'était costaud en tout cas. Grosse agressivité, grosse concentration. Et oui, cette capacité à bien exploiter les ballons de récup. Encore une fois, pour revenir un petit peu sur la différence avec les plus grosses nations, là où le bas blesse, entre guillemets, j'ai trouvé que sur les moments où les Françaises vont percer offensivement, elles manquent peut-être un peu de caisse pour aller à l'essai. Quand on voit, on parlait de Portia Woodman tout à l'heure, là, qui a marqué son 250e essai d'ailleurs sur le circuit.
Elle est incroyable.
Waouh. Donc les joueuses les plus fortes, pardon, elles vont aller à l'essai quand elles percent. Et ce que les Françaises n'ont pas réussi à faire plusieurs fois, j'ai l'image de Yengo en tête, de Valentine Lotoz aussi.
Qui s'arrête devant la ligne.
Ou je ne sais pas si c'est la condition physique, j'imagine que oui, parce que le Seven, c'est quand même assez gourmand physiquement.
David Courtex parle d'un manque de conviction, de confiance
conviction,
en soi,
de se dire
oui, on assume, on peut le faire, on peut battre ces équipes-là. Et donc, on va aller au bout du bout du bout du bout. Et ça, c'est peut-être une notion qu'elles n'ont pas encore totalement intégrée. En tout cas, selon la lecture de David Courtex. Repasser rapidement sur les rendez-vous, les prochains rendez-vous d'ici les Jeux, d'ici aux Jeux pour les Françaises. Elles ont 15 jours là où elles vont rentrer chez elles, un peu de repos, et puis on va relancer la préparation physique en autonomie. Il va y avoir un stage à Osgore dans les Landes, un tournoi à 4 contre l'Irlande, les États-Unis et les Fidjiennes à Jean-Daugé. Ce sera le week-end des 24 et 25 mai. Chaque équipe va disputer 5 matchs pour monter un peu en puissance. Avant le tournoi final du World 7 Series, ce sera Madrid, où les 8 meilleures nations mondiales vont s'affronter pour s'arroger le titre, le sacre de cette saison. Ce sera du 31 mai au 2 juin. Et évidemment, à partir du 28 juillet pour les femmes, du 24 pour les hommes, on sera au Stade de France pour les Jeux Olympiques. Il faudra d'ailleurs scruter cette liste de Madrid, autant pour les femmes que pour les hommes, puisque ça risque de ressembler très fort à ce qu'on verra au Stade de France. Justement, petit bilan très rapide sur les hommes, leur tournoi frustrant. Ils ont terminé 8e, hein, Arthur.
En ce qui concerne les garçons, on est loin, très très loin de revoir ce qu'on avait vu sur les derniers tournois. Il n'y avait pas de Paulin Riva et Stéphane Parez, ils étaient au repos sur ce tournoi-là. Kapila et Lerette remplacés. C'est Varian Pasquet et Antoine Zegdar aussi. Le groupe a beaucoup bougé. Ça je pense qu'on peut, on peut le retenir. À signer d'ailleurs, c'est Ryan Rebadge qui a été désigné capitaine sur l'étape. Ça lui a plutôt bien réussi d'ailleurs, puisqu'il a inscrit un essai lors du premier match. Victoire 17-0 contre les Samoa. Ok. Puis un autre, France-Espagne, victoire 17-12. Celle-là était plus compliquée à se dessiner. C'était un peu plus dur face aux Espagnols. Les Français sont même passés pas loin de le perdre, ce match, sur la dernière action. Puis la première désillusion, dernier match de poule contre l'Afrique du Sud. Une défaite de rien du tout, d'un tout petit point. Un scénario hyper frustrant, puisqu'à la mi-temps, 5-10, 15-0 pour les Sud-Africains. Puis la remontée française, 15-17, avant l'effondrement sur la sirène. Horrible défaite 19-20. C'était que le début des problèmes, puisque les Bleus vont perdre en quart contre la Grande-Bretagne, 35-7. Beaucoup d'indiscipline, beaucoup de plaquages manqués et le dernier coup sur la tête, un nouveau match perdu, c'était contre les États-Unis pour finir 19-17. Une 8e place donc et une vraie, vraie déception pour
le moment. Il va falloir se relancer après 3 tournois avec des médailles, bronze, or, argent. Là, on a la 8e place, mais évidemment, ce qui va compter, c'est Madrid. Avec le retour, tiens, de la superstar Antoine Dupont, retour aussi des autres cadres dont tu parlais, le capitaine Paulin Riva et le demi-de-mêlée titulaire Stéphane Parezedo. En attendant Antoine Dupont et le retour des cadres français et françaises pour la finale à Madrid, on reste aux aguets sur la prépa olympique et on vous tient au courant, c'est promis. Allez, portez-vous bien. À très vite.
À bientôt.